Nous avons vu ensemble la semaine dernière que l'un des freins à une vie de prière profonde et vivante résidait dans le fait que nous localisions souvent Dieu dans les étoiles lorsque nous prions dans un endroit se situant quelque part entre Vénus et le Soleil, donc loin, bien loin de nous. J'aimerais aborder avec vous aujourd'hui une autre difficulté. Beaucoup de personnes m'ont raconté que leur vie de prière était aussi captivante qu'un débat politique et un soir d'élection. Préparez-vous, hein, ça arrive. Et que ces mêmes personnes me disaient que quand elles priaient vraiment, ou en tout cas qu'elles avaient l'impression de prier vraiment, c'était lorsque les choses allaient vraiment mal. Quand la situation semblait totalement désespérée, qu'elles estimaient n'avoir plus aucune possibilité d'influer sur la situation par elles-mêmes de quelque manière que ce soit. En fait, le désespoir a constitué de tout temps le véritable point de départ de la vie de prière de beaucoup de personnes, à être mis au pied du mur, sans aucun autre recours que Dieu lui-même. En dehors des temps de crise, nous ne prions pas, car nous préférons nous reposer, même si on ne s'en rend pas compte souvent, sur notre intelligence et nos propres capacités. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette façon de fonctionner nous dit quelque chose de ce que nous croyons vraiment concernant la prière. Le chant que nous avons entendu ce matin, pour commencer, parlait de la foi, dont la foi, c'est la confiance en quelqu'un. Donc je pense pouvoir dire que notre attitude globale envers la prière, nos difficultés de vie dans la prière, manifestent une chose en particulier. C'est que dans les moments ordinaires de nos vies, nous croyons que la prière ne change en fait rien du tout. De nombreuses personnes pensent que leurs prières ne changeront pas ce que Dieu a décidé ou ce qui se passe. Alors à quoi ça sert de prier ? Et on entre alors, chemin faisant, dans une sorte ou une forme de fatalisme. Bon, les choses sont comme ça, quoi. Voilà, il faut les vivre. Et forcément, le fatalisme n'a jamais, à ma connaissance, poussé personne à prier. Voilà ce qu'en dit Dallas Willard, notre penseur et théologien chrétien. L'idée que tout se passerait exactement de la même manière que nous prions ou pas est un spectre qui hante les esprits de nombreuses personnes confessant sincèrement croire en Dieu. Cela rend la prière psychologiquement impossible, la remplaçant au mieux par un rituel moribond. On va donc tenter de résoudre l'équation aujourd'hui en prenant un premier texte, un texte que vous connaissez sans doute, quoique il est tiré de l'Apocalypse. Donc, je ne suis pas vraiment convaincu que ce soit un livre où nous passions beaucoup de temps. Et c'est dommage, parce que c'est captivant. Alors, l'Apocalypse qui a été évidemment écrit par l'apôtre Jean. Quand l'agneau ouvrit le septième sceau, donc il y a une vision de certains événements qui doivent se passer dans le futur. Quand l'agneau ouvrit le septième sceau, donc l'agneau c'est Jésus, c'est le Christ, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Sept trompettes leur furent données. Un autre ange vint, il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec la prière des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Alors c'était un texte un peu obscur, comme souvent le livre de l'Apocalypse. Et en fait, Jean nous décrit quelque chose d'assez extraordinaire, il faut bien le dire. Donc, c'est une scène qui se passe au ciel, dans le sens du ciel, dans la Sébès. C'est le lieu hors de l'espace et du temps où réside Dieu. Les sceaux du rouleau ont été brisés, donc sous ce rouleau se trouvent symboliquement inscrits tous les crimes, la violence et les péchés de l'humanité, et le jugement qui en résulte par rapport à ces actes. Et c'est alors qu'une chose étonnante, en tout cas ça devrait nous étonner, même si on peut passer à côté, il y a une chose étonnante qui se produit. Jean nous dit, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Alors je tiens quand même à préciser que ça n'a rien à voir avec la présence de femmes ou non au ciel. Certains grands théologiens ont dit, ce texte prouve qu'il n'y aura pas de femmes au ciel puisqu'il y a eu un silence une demi-heure. Jamais aucune femme ne pourrait se taire une demi-heure. Ça n'est pas ma ligne du tout, bien entendu. Donc Jean nous dit, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Pendant ce temps, nous dit l'apôtre, un ange tenant un encensoir en or s'approche de l'autel et fait une offrande d'encens. Encens qui représente, le texte le dit, les prières venant d'où ? Venant de la terre. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sous l'autel d'or qui est devant le trône. Et après cela, de grands actes de jugement tombent sur la terre, avec force description du tonnerre, des éclairs, des tremblements de terre, etc. Mais ce qui est le plus frappant, c'est que ces actes de jugement sont la réponse aux prières des saints. C'est parce que des chrétiens prient que ça se passe. En règle générale, nous avons tendance à penser que ce sont les événements se passant sur la terre qui sont interrompus à cause d'actions et décisions prises au ciel. Et je ne dis pas que c'est faux, bien entendu. Il est évident que des décisions prises au ciel ont une influence sur ce qui se passe ici-bas. Néanmoins, ce qui se passe ici est exactement l'inverse. Les cieux font silence pendant une demi-heure. Alors, on peut lire ça avec beaucoup de dégagement, mais ça veut dire que le chant des anges, qui est un chant continuel et infini, il loue Dieu en permanence, c'est une des fonctions des anges. Ces chants, cette louange, les cantiques si vous préférez, qui résonnent à l'infini, la gloire de Dieu, s'interrompent, ça s'arrête. Pourquoi ? Parce que quelqu'un prie. Donc, visualisez ça quand vous priez. Quand je prie, ça s'arrête. Il faut faire silence pour que les prières puissent être entendues. Donc, je vais dire autrement. Le paradis s'arrête afin que des prières, le prière des saints dans notre texte, vos prières et les miennes, chacune d'elles puisse s'élever devant Dieu. Autrement dit, ces prières sont entendues et ces prières comptent. Ça compte. Donc, ce sont des prières d'hommes et de femmes, d'êtres humains comme vous et moi. Ce ne sont pas des surhommes ou des surfemmes. Elles comptent même tellement, donc, ces prières qu'elles interrompent l'activité du ciel. Et ce qui se passe ensuite arrive parce que quelqu'un a prié. C'est ça le message. Indépendamment des trucs terribles qui se passent. C'est ça le message que veut nous transmettre Jean à travers les siècles, lui qui a eu cette révélation du Christ, parce qu'il priait sur l'île de Patmos. Rappelez-vous la semaine passée, Pierre, cette vision qu'il a sur le toit de sa maison vers midi, d'une nappe qui descend, cette vision qu'il a de ce que va devenir l'Église, que les Juifs devront accueillir les païens, il l'a pendant un temps de prière. Donc si je devais résumer, c'est toujours difficile, le message que Jean veut faire passer à travers ce texte, je dirais ceci. Et logiquement, la diapositive suivante vient. Merci. L'histoire appartient aux intercesseurs, à ceux qui croient, qui prient et font advenir le futur. Ça veut dire une chose, c'est que l'histoire n'appartient pas aux puissants, aux riches, aux dirigeants, les mauvaises langues diront ça vaut mieux, aux armées, aux corporations, aux empires médiatiques. Alors bien sûr, faut pas être naïf, les agissements de toutes ces personnes peuvent paraître impressionnants pour un temps. Mais le jour viendra où toutes les actions purement humaines des hommes seront oubliées et jetées sur le tas de cendres d'un passé mort. Tout ça n'aura plus d'importance. L'histoire appartient à ceux qui prient, à ceux qui croient et font advenir le futur. Vous savez, en essayant de préparer ce message, il y a quelque chose qui m'est revenu à l'esprit. S'il fallait se convaincre de l'importance de la prière, se demander simplement pourquoi est-ce qu'il faudrait continuer à prier, il suffit de penser à Jésus. Prenez son ministère. Il a duré combien de temps son ministère sur la terre ? 3 ans. Depuis qu'il est parti, donc il est retourné vers son père, sous le regard ébahi de ses disciples. Donc ça fait quand même plus ou moins 2000 ans. Qu'est-ce qu'il fait depuis ? Tu peux mettre la suivante, Coco. Qu'est-ce qu'il fait depuis ? Il prie. Ça fait notre temps à nous, hein, pas le sien, parce qu'il n'y en a pas dans l'éternité. Hein, c'est l'absence de temps et d'espace. Mais dans notre temps terrestre à nous, ça fait 2000 ans que Jésus prie. 3 ans de ministère, 2000 ans. On a plutôt tendance, vu d'ici, de dire, oui, l'important, c'est son ministère. Bien sûr que c'est super important ce qu'il a fait ici. Hein. Et Paul le rappelle, il parle des chrétiens, bien sûr. Hein. Qui les condamnera ? Jésus est mort, mais en plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède. Donc, il prie pour nous. 3 ans de ministère ici, 2000 ans de ministère pour nous, en notre faveur. Quand on réfléchit à ça, on peut encore vraiment se poser la question si la prière, c'est quelque chose d'important, objectivement. Alors tout ça, je sais, et j'attaquerai ces questions-là dimanche prochain, enfin j'essaierai en tout cas. Bien sûr qu'il y a des questions qui peuvent surgir, hein, par rapport à ce que je viens de dire jusqu'ici. C'est vrai. Si Dieu écoute, pourquoi je ne suis pas exaucé? Pourquoi il ne me répond pas? Pourquoi je n'ai pas eu ça? Pourquoi dans telle situation, j'ai l'impression que j'étais abandonné? Voilà, ça existe tout ça aussi. Hein. Mais il faut quand même rappeler, et c'est la base de tout, que l'enseignement biblique concernant la prière ne peut nous mener qu'à une merveilleuse et écrasante conclusion. La prière, ça change les choses. Ça change, ça fait bouger les lignes, ça fait bouger le monde. Dans le chant, c'est une petite parenthèse, le chant qu'on a vu, il y a une diapo, et moi je trouve cette diapo géniale, même si en première vue on peut se dire qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans. C'est la scène avec le mur. C'est le mur de Berlin. Rappelez-vous, il est tombé en 89. Alors, c'est l'effondrement du bloc soviétique et tout le monde dit oui, ben, bien sûr, oui, ben, c'est historiquement important. Gna, gna, gna. Vous savez que la personne centrale, il n'y a pas que lui. Hein, ça, pendant des dizaines et des dizaines d'années, enfin depuis la révolution bolchevique en Russie, des milliers de chrétiens ont prié pour que ce mur s'effondre, pour que ce régime totalitaire tombe. Bien entendu. Mais vous savez qui les historiens reconnaissent comme figure centrale de la chute du communisme ? Le pape Jean-Paul II. Tous les jours, il priait pour que ce mur tombe. Et politiquement, il a tout fait pour que ce mur tombe. Après, à côté de ça, il a dit des conneries, hein, comme tous les hommes. Mais ça, il faut le laisser. Donc ce mur est tombé d'abord et avant tout, parce que des chrétiens ont assumé leur responsabilité de combat dans la prière. Ce mur et ce régime doivent tomber. D'ailleurs, tous les régimes totalitaires finissent toujours par tomber, mes amis. Les démocraties, ce n'est pas nécessaire, nous avons nos hommes politiques pour ça. Oh, pardon, ça m'a échappé. Bah, faites un peu d'histoire, vous voyez que les démocraties meurent à cause des démocrates. La première prière d'intercession, puisque je dis, nous allons prendre notre texte, puisque je dis, j'affirme que Bible en main, la prière change les choses. La première prière d'intercession que nous avons dans le texte biblique est celle d'Abraham intercédant pour les justes de la ville de Sodome et Gomorre. Dieu va détruire cette ville parce qu'elle est la quintessence de tout ce qu'il y a de pire dans l'humanité et Dieu dit maintenant ça suffit, je vais éradiquer ce mal de la terre. Et Abraham, parce qu'il a quand même son cousin Lot, c'est son cousin, je pense, Lot, hein, c'est ça, ou son neveu, Vous voulez le rendre son de famille, moi j'ai un peu de mal. Et en prenant ça, Abraham, sans l'homme, évidemment, je vais prier pour les justes de cette ville. Ils ne sont pas tous complètement tarés, hein, pour le dire autrement. Alors, je n'ai pas pris tout le texte, ça aurait été sans doute trop long, mais voilà. Abraham s'approcha de Dieu donc et dit, supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant, ça ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit? Ça, c'est une manque culotté, Abraham, hein, de quelque part rappeler à Dieu qui il est. Alors, on connaît cette histoire, je l'ai dit. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est les arguments qu'Abraham avance pour justifier sa demande. Et de quelle manière il se mobilise. Parce que là, j'ai pris une partie. Après, il va passer à 40 justes, 30 justes, 20 justes, 10 justes. Il va s'arrêter à 10. Chaque fois, il dit, oui, mais s'il en a 40, ok, j'ai pas l'avis. Mais s'il en a 30, et il continue, et ben, il y va, il retourne. Puis, il s'appuie sur quoi? Il dit, mais enfin, tu es un Dieu saint, tu es un Dieu de justice, tu ne peux pas punir l'innocent avec le coupable. D'autres termes, il lâche pas le morceau, Abraham. Connais la fin de l'histoire. Abraham ira jusqu'à invoquer la miséricorde de Dieu si seulement 10 justes se trouvent dans la ville. Et Dieu, vous le savez, épargnera finalement uniquement la famille de Lot. Dans un premier temps, 4 personnes, ses deux filles, Lot et sa femme. Et sa femme, en se retournant, en quittant la ville, c'était un interdit, tu ne te retourneras pas pour regarder la ville. Et elle se retourne et bon, le texte dit qu'elle est transformée en statue de sel. Elle s'est retournée, donc elle est finalement perdue avec les autres. La ville a été détruite parce qu'il n'y avait que 4 justes. Mais ce qui est très intéressant pour nous, me semble-t-il, en se basant là-dessus, et c'est ce qu'un éminent intellectuel et théologien américain, Walter Wing, dit, et je trouve ça très bien dit, la morale de cette histoire, c'est que ça paye de marchander avec Dieu. Bon, c'est une manière un peu crue de le dire, hein, on est bien d'accord. Mais si on n'ose pas, à un moment, il faut secouer, quoi. Je ne dis pas que Dieu dit toujours Amen parce qu'on bourre dedans, hein, mais j'ai souvent dit il vaut mieux l'empoigner que lui tourner le dos. Hein. La morale de cette histoire, c'est que ça paye. Ça me choque, hein, mais enfin bon, quelque part, c'est pas faux. C'est que ça paye de marchander avec Dieu. Je pense qu'il a raison, dans le sens où il n'y a pas d'exemple de prière servile et flatteuse dans la Bible. Oh Seigneur, que tu es grand. Et juste après, tu peux me donner. Ça n'existe pas. Ça vient de là. Hein, prenez les psaumes, quoi. Les psaumes, les gars qui envoient, qui prient, ça vient vraiment de là. Il n'y a pas de faux semblant. On y va. Hein. Je suis dans le pétrin, tu vas m'en sortir. Qu'est-ce que tu fous? Je t'attends, tu ne sers à rien. Ils y vont, hein. Apparemment, en tout cas, en apparence, Dieu n'est pas choqué ni traumatisé par ça. Donc la prière biblique, me semble-t-il, hein, est impertinente, combative, effrontée et inconvenante. Ces hommes et ces femmes parlent quand même à Dieu, quoi. La prière, selon la Bible, ressemble donc plus à un marchandage dans un bazar oriental, pour ceux qui ont été en Turquie, entre autres, qu'à la petite prière polie et bien propre sur elle que nous retrouvons dans l'Église. Ô Seigneur, que tu es grand, fais selon ta volonté. Amen. Ah ouais. Ah, quelque part, il fera comme il veut, ça c'est sûr. Mais moi, je pense qu'il aimerait bien nous embarquer dans cette volonté. Donc, je le répète, la prière, bibliquement, la prière change les choses. Et Dieu est d'accord puisqu'il commence à te frapper du pied. Hein? Thomas Merton, un moine, voilà, je l'ai cité la semaine passée d'ailleurs, explique que lorsqu'il était, il était encore qu'un jeune prodige littéraire, bardé de diplômes universitaires, il avait été passé quelques jours dans un monastère. Et il fut frappé par la différence de rythme entre sa vie et la vie de ces quelques hommes qui avaient consacré leur vie à prier. Et suite à cette expérience, il a déclaré, ces hommes, donc les moines, font pour leur pays ce qu'aucune armée, aucun congrès, aucun président ne fait. Ils gagnent pour lui la grâce, la protection et l'amitié de Dieu. Mais ça veut dire une chose, et on a du mal à vivre avec ça, hein, et c'est peut-être un problème supplémentaire à ajouter à la liste, mais vous ne savez pas, au moment où je parle, hein, vous ne savez peut-être pas combien de personnes ont été fortifiées par Dieu parce que vous avez demandé à Dieu de les encourager. Vous ne savez pas. Parce que peut-être la personne n'a pas dit, ne vous a pas dit, tu sais, j'allais vraiment pas bien, j'étais en dessous de tout, et à un moment, je me suis senti porté. Partage pas assez sur ce genre de choses, c'est bien dommage. Vous ne savez pas non plus combien de personnes ont été guéries d'un mal quelconque parce que vous avez prié pour que Dieu guérisse leur corps. Vous n'en savez strictement rien. Parfois, ce sont des processus lents et Dieu veut autre chose, installer autre chose aussi dans ce processus. Vous ne savez pas non plus combien de ce que moi j'appelle de fugueurs spirituels sont revenus à la maison parce que vous avez prié sans relâche pour leurs âmes. Il y a des gens qui reviennent vers Dieu parce que vous avez prié pour eux. Hein. Et pas une fois, pas 10 fois, parfois 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, vous mettrez le chiffre que vous voulez. Hein. Moi, je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont en train de revenir. Parce que ça fait des années que des hommes et des femmes prient pour qu'ils reviennent. Il se peut que nous ne sachions jamais de ce côté-ci du miroir quels ont été les effets de nos prières. Moi, je suis très flatté qu'il y a des roulements de tambour et des tremblements de terre quand je parle. Enfin, ma puissance va être connue. Dietrich Bonhoeffer a écrit, connaissait ce pasteur allemand, et j'aime beaucoup cette citation. « La prière pour les autres est le bain de purification que chacun d'entre nous et la communauté devons prendre tous les jours. Pas seulement parce que Dieu répond à nos prières, quand on prie pour les autres, mais parce qu'en priant pour les autres régulièrement, on se purifie de son égoïsme, on place les autres avant soi, on arrête d'être le centre du monde quand on prie pour quelqu'un d'autre que soi. Parce qu'en priant pour les autres, on apprend à mieux connaître cet autre que Dieu aime tant. C'est aussi pour ça qu'il faut prier pour les gens qui nous pompent l'air, avec qui on a des problèmes, ou qu'on déteste, avec qui on a des relations difficiles. Parce qu'en priant pour cette personne régulièrement, on va être ouvert à une autre dimension. C'est que justement, Dieu va rentrer dans l'équation et il va nous montrer son regard à lui sur cette personne. Puis parce qu'en priant pour les autres, on apprend à se rapprocher du cœur de Dieu. Parce que mes amis, l'amour véritable naît de la prière. Moi, je sais à titre personnel une chose, j'en suis convaincu, c'est que si Isabelle et moi sommes encore mariés aujourd'hui, c'est parce que pendant une période de temps, au moins qui a duré 3 ans, elle a prié sans arrêt. Voilà. Parce qu'on était plus beau, plus intelligent, moi je suis un super-héros, pas du tout. C'est tout. Ça, je suis convaincu de ça. On ne saura donc jamais, parfois, quel aurait été l'impact de notre prière. Et c'est un peu frustrant. Et parfois si, et j'aimerais vous raconter une histoire qui est une histoire vraie, que je trouve extraordinaire. Tu peux mettre la suivante ? Merci. Une bonne tête. Hein. Tony Campolo est un pasteur sociologue et ancien, pour le situer dans le temps et l'espace, un ancien conseiller du président américain Bill Clinton. Il raconte dans un livre ce qui lui est arrivé un jour lors d'une réunion de prière. Il est invité dans une église, parce qu'il ne l'est pas lui, mais une grosse église pentecôtiste américaine a apporté un message lors d'une conférence. Et comme souvent dans ces cas-là, je vous dévoile un peu l'autre côté du décor, on prend le pasteur dans un coin avant le message et on prie pour lui. Rarement avec lui, mais pour lui. Et Campolo dit, ils étaient 8, ils m'ont pris dans une petite pièce, ils m'ont fait mettre à genoux et ils m'ont imposé les mains, c'est très pentecôtiste aussi ça, pour que Dieu me bénisse avant de prêcher. Il dit alors, moi ça ne me dérange pas du tout, je trouve ça plutôt touchant et j'y crois à cette prière. Le seul problème, c'est qu'ils sont très longs quand ils prient, donc leurs mains commencent à s'appuyer de plus en plus sur ma tête et j'ai les cervicales fragiles. Pas moi qui le dis, c'est comme Polo. Et j'ai à un moment, je me dis, Seigneur, il faut que ça s'arrête, moi je vais être épuisé avant de commencer. Et c'est à ce moment-là qu'il y en a un dernier des 8 qui prend la parole et il commence à prier pour quelqu'un d'autre que lui. Il ne prie pas pour Tony Campolo. Il commence à prier, je vais essayer de retrouver son nom, pour un certain Charlie Stolfus, ça ne s'invente pas. Et le gars dit, « Oh Seigneur, tu sais que Charlie Stolfus m'a téléphoné ce matin et qu'il m'a annoncé, Seigneur, qu'il allait quitter sa femme et ses 3 enfants. Interviens, Seigneur. Tu sais, tu connais Charlie Stolfus, le gars qui habite cette caravane gris métallisé sur le bord de la Nationale. Tu vois avec le petit parterre. » Alors, Campolo, il dit dans ce livre, il dit, à ce moment-là, j'ai envie de dire au type, arrête de donner des indications de lieu à Dieu, quoi. Il sait, abrège, voilà. Ça s'arrête là, il s'arrête de prier. Campolo dit, je vais dans la salle, je prêche mon message, je sors de là, je monte dans ma bagnole et je pars. Et il retourne chez lui, il prend la nationale. Après quelques kilomètres, il voit un autostoppeur. Et comme il est bien disposé, il dit, je vais le prendre. Il cherche le gars et il continue à rouler quelques kilomètres, sans dire un mot. Après un certain temps, c'est qu'un pasteur, il dit, je vais essayer de lier une conversation. Il dit, bonjour, à propos, je m'appelle Tony Campolo. Et vous ? Et le gars dit, je m'appelle Charlie Stolfus. C'est une histoire vraie. Et Campolo dit, je n'arrivais pas à le croire. Et là, je vais reprendre ce que lui dit, ce que Campolo raconte. J'ai pris la première bretelle de sortie. Et j'ai fait demi-tour. Le gars était un peu mal à l'aise avec cette manœuvre et après quelques minutes, il m'a demandé « Monsieur, où me conduisez-vous ? » Je lui ai répondu « Je vous conduis à la maison. » Il m'a regardé avec des yeux ronds et m'a demandé « Mais à ma maison, mais pourquoi ? » parce que tu viens juste d'abandonner ta femme et tes trois enfants. Voilà pourquoi. Alors le gars, il est soufflé. Il se prostre dans le lit, il se prostre, il se calfeutre dans son siège, il repose la tête sur la portière et il regarde le gars, mais fixement. Quand Paulo continue, il dit « Je me suis arrêté près de la caravane argentée, gris métallisé, et là, il regardait avec des yeux qui faisaient trois fois la taille de sa tête. « Comment savez-vous que j'habite ici ?» Et Quimpolo répond « Dieu me l'a dit. » Quand il ouvrait la porte de la caravane, sa femme s'est exclamée « Tu es de retour ! Tu es de retour !» C'est là qu'il a commencé à chuchoter à l'oreille de sa femme. Et plus il chuchotait à l'oreille de sa femme, plus les yeux de la femme s'ouvraient et s'agrandissaient en regardant Quimpolo. C'est alors que, et je cite de nouveau Quimpolo, « J'ai dit avec toute l'autorité dont j'étais capable, vous vous asseyez tous les deux, je vais parler et vous deux, vous allez vous taire et m'écouter. » Alors il dit « Les gars, mais qu'est-ce qu'ils m'ont écouté hein ? Je n'avais jamais rencontré un couple aussi attentif, tu m'étonnes. » Et il termine en disant « Cet après-midi-là, j'ai mené ces deux jeunes gens à Jésus-Christ. » Alors, bien entendu, il n'est pas très courant, du moins selon mon expérience, même si ce genre de truc m'est arrivé une ou deux fois dans ma vie, hein, d'avoir la réponse à ses prières d'une façon aussi dramatique et aussi vite, hein, vous rendez compte. Mais ce n'est pas là la question. L'important, c'est que, en fait, Jésus a parlé de la prière, il a parlé d'intercession, il a parlé de ce qui était vraiment important. Et on pourrait résumer son enseignement sur le sujet par un mot, un seul, un mot qui nous fait souvent peur, enfin en tout cas à moi. Et ce mot, c'est persévérance. C'est un terme qu'on n'aime pas parce qu'on a du mal avec ça. Vous savez que moi, qu'il a enseigné un bon nombre de paraboles, entre autres une qui parlait d'une veuve têtue qui cassait les pieds à un juge totalement injuste, hein, qui a fini par lui donner gain de cause pour avoir la paix. Il a parlé de deux voisins qui demandent là encore avec persistance qu'on leur vienne en aide, ou encore des petits-enfants qui étaient persuadés que leur père finirait envers et contre tout par répondre à leurs demandes. Toutes ces histoires, toutes ces paraboles montrent la même chose. Si la persévérance paye même à un niveau humain où nous devons triompher de l'empathie, de la résistance de ceux que nous rencontrons, à plus forte raison devons-nous nous rapprocher et nous approcher notre Père dont l'amour et la sagesse dépassent largement notre imagination. Pour dire autrement, si on parvient à renverser les obstacles dans cette vie-ci, sans l'aide de Dieu, croyez-moi, en priant, en intercédant, avec son aide à lui, il y a des choses qui changent. Donc, prier, plus que toute autre activité, est l'expression concrète du fait que nous sommes invités à entretenir une relation profonde et vivante avec Dieu. Comme le dit si bien Dallas Willard, et c'est peut-être un élément de réponse par rapport à certains obstacles, au fait que Dieu ne répond pas, parfois, prier, c'est parler avec Dieu des choses que nous faisons ensemble. Vous faites des trucs seuls dans votre coin, ça m'étonnerait qu'il l'exauce. Mais je ne vais pas anticiper. Vous savez, il m'est arrivé de me retrouver au chevet de personnes sur le départ, qui étaient plus brièvement très proches de la ligne de départ. Et c'est habituellement un moment où l'on exprime beaucoup de regrets. Vraiment. Le regret d'avoir été omnibulé par le travail, le temps passé à gagner ou à courir dans tous les sens pour gagner plus de sous. Ou le regret simplement d'avoir gâché son temps dans des choses futiles qui n'avaient pas beaucoup d'importance. Ça, j'ai entendu souvent, ce type de regret-là. Par contre, je n'ai jamais entendu personne regretter le temps passé à prier. C'est quelque chose qu'on ne regrette jamais. Sans doute, mais ça c'est mon avis, hein, parce que là où il y a beaucoup de prières, il y a aussi souvent beaucoup d'amour. Alors il faut le prouver dans les faits, l'amour. Hein. Il faut le dire aux gens, il faut leur prouver qu'on les aime. Mais le plus bel endroit où vous pouvez le prier, vous pouvez le prouver, c'est en priant pour sa personne. Richard Foster, que vous ne connaissez forcément pas, c'est un copain, Geoffrey, il aime la montagne. Mais ça, je pense qu'il habite le Colorado, donc forcément ça aide. Richard Foster, un théologien chrétien, donc raconte qu'un jour, qu'il était dans une grande surface avec son tout petit garçon, celui-ci s'est mis à hurler et à crier. Si ça rappelle quelque chose à un d'entre vous, ça, c'est purement fortuit. Hein. il n'y avait pas moyen de le calmer ou de le faire taire. En désespoir de cause, Richard explique qu'il a pris son fils dans ses bras et lui a chanté une petite chanson improvisée dans laquelle il disait qu'il était heureux d'être le papa de ce merveilleux petit garçon. Le petit, après un certain temps, s'est blotti dans les bras de son père, et lorsque celui-ci l'a déposé dans son siège sur la banquette arrière de la voiture, il ne pleurait plus, il ne criait plus. Il a simplement dit à son père, « Tu veux bien la chanter encore, ta chanson, papa ?» Mes amis, la prière, c'est pareil. Avec simplicité de cœur, nous nous blottissons dans les bras de notre père et le laissons nous chanter encore et encore son amour pour nous. Nous devrions donc, à chaque fois que nous nous posons pour prier, dire simplement à Dieu, « Tu veux bien me rechanter cette chanson ?» Parce que c'est toujours la même. Hein. Il nous aime et ces temps que nous passons avec lui ne sont pas seulement bénéfiques pour nous, bien sûr qu'ils le sont. Mais ils le sont aussi, et souvent, et avant tout peut-être même, bénéfiques pour les autres. Il faut apprendre à le croire. Et pour voir que ça marche, que ça fonctionne, que Dieu répond, ben il faut commencer à prier. Mais en croyant, en étant persuadé qu'il nous entend profondément et qu'il va changer les choses. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.